30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors sommaire pour ce 30 minutes chrono du samedi. Alors on va commencer comme d'habitude par la chronique de la Babale Carré. Alors cette chronique va revenir sur la tierce propriété, une pratique de plus en plus répandue dans la jungle du football professionnel. Un cas est vraiment emblématique de cette curieuse pratique, c'est celui de Radamel Falcao. Depuis qu'il est adolescent, il n'arrête pas de changer de club, ce génial avant-centre colombien. En dernière nouvelle, il vient d'atterrir en provenance de la principauté de Monaco à Manchester United pour un prêt payant avec option d'achat. Ce joueur est une marionnette. Une marionnette certes très très bien payée, mais une marionnette quand même. Alors, des fois, dans cette émission, nous avons des invités la plupart du temps, mais cette semaine, nous n'en avons pas. On va des invités la semaine prochaine. Alors, pas d'invités pour cette émission, alors je vais profiter pour cette reprise en douceur de cette émission pour revenir sur quelques-uns des derniers événements sportifs marquants, surtout dans les sports co. Alors, on va parler tennis, basket et volley. Tout en haut de l'affiche, on va pousser des cocoricots. Ensuite, on donnera quelques informations autres pour conclure.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Doy una raya en el mar. Fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Yo soy el quiebra-ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
La chronique de la Babale Carré. Alors merci à Manu Chao pour Clandestino. Alors c'était un petit clin d'œil, vous allez comprendre pourquoi. Avant d'entamer cette rituelle chronique de la Babale Carré, je voudrais remercier l'équipe magazine datée du samedi 13 septembre dernier pour son excellent dossier central traitant du business Falcao, qui m'a éclairé encore plus sur ce que je savais déjà un peu sur les pratiques ahurissantes des transferts. Vous allez pénétrer dans la tierce propriété, ou plutôt, pour parler mondialisé, dans la TPU, Third Party Ownership. Cela sonne bien, mais cela ne sent pas toujours très bon. Sachez que 10% du montant annuel des indemnités de transfert dans le monde suivent désormais ce chemin tortueux. Michel Platini a affirmé « Je ne pense pas qu'il soit bon qu'un joueur appartienne à une entreprise financière. Cela s'apparente à une forme moderne de l'esclavage. Pas moins ! Le Michel, il avait été en Colombie peut-être. Quant à la très respectable FIFA de M. Blatter, un Suisse qui aime bien les montres, ce qui est tout à fait normal, il est précisé dans ses règles et ses statuts qui valent droit que la FIFA prohibe l'influence des tiers sur les choix stratégiques des clubs et des transferts qu'ils effectuent. Défense de ce bidonné. Mais revenons au cas Falcao. Il a 14 ans quand il débarque à Buenos Aires. Et déjà une aura très remarquée. C'est un buteur, un vrai. Il vient d'un petit club de la banlieue de Bogota, le Deportivo Fairplay. Si, ça ne s'invente pas, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est donc dans la capitale argentine que tout commence. Et River Plate, un des clubs phares de la capitale, achète 50% du joueur. Le reste reste en famille, mais aussi dans les poches d'un certain Silvano Espidola. C'est un pasteur évangéliste, basé désormais en Floride. Et c'est l'ancien président du Fair Play. Eh ben oui. Et puis, il y a déjà le premier agent, Nestor Sivori. Mais disons que jusque-là, le Tigre, le surnom du joueur, est un produit rentable mais sans plus. Falcao part à Porto et tout s'accélère. Son transfert reste encore aujourd'hui en partie devant les tribunaux portugais car certains pensent que Porto a payé beaucoup plus cher que les 4 millions d'euros de transfert. Mais où est l'argent? Mais ce n'est rien à côté de la suite. Pourtant, la première société d'investissement apparaît déjà du temps de Porto. Elle est néerlandaise. Elle aurait racheté à River Plate 5% des droits du joueur, qui commence à ressembler, vous savez, à une espèce de patchwork. De Natland, on peut aussi parvenir jusqu'à certains paradis fiscaux, tels les îles Vierges britanniques, avec d'autres sociétés écrans. Mais tout va aller beaucoup plus vite encore quand le Tigre passe à l'Atlético de Madrid. On apprend qu'une société basée sur l'île de Malte, bien connue pour la faillite et de ses banques, mais aussi pour son régime fiscal paradisiaque, cette société, Doyen Sport, aurait financé à hauteur de 50% l'acquisition du joueur par Porto et aussi financé 33% du prochain transfert vers l'Atlético de Madrid. Mais derrière la société située à Malte, il y a un des géants mondiaux de l'investissement. Celui-ci est basé à Londres et ça s'appelle Doyen Group. Alors, ce groupe d'investisseurs, donc mondialement connu, mise sur la future star colombienne qu'on m'a mise sur les matières premières. Il y aura un retour sur investissement d'ailleurs. Le joueur n'appartient donc plus ni à Porto, ni à l'Atlético. Cette pratique est illégale en France et en Angleterre, mais pas au Portugal. Porto trouve le système formidable. Les fonds d'investissement lui permettent d'avoir chaque année une équipe compétitive et les reventes extrêmement nombreuses profitent à tout le monde, y compris au club. Mais c'est avec l'arrivée de la star des agents, le portugais Jorge Mendes, que Falcao va vraiment servir de bétail de luxe. Mendes évince Sivori et prend le Tigre en main. Il faut comprendre que Mendes, à lui tout seul, c'est une multinationale. Il possède via Gestifoot, le nom de sa boîte, au moins 90 joueurs et entraîneurs de tout premier plan dans son écurie. Alors tel, on va citer deux très connus, l'entraîneur Mourinho, qui est à Chelsea maintenant, et le joueur Cristiano Ronaldo, qui joue au Real Madrid. Il fait la pluie le beau temps, Mendes, dans les clubs les plus prestigieux. Et il aime bien faire valser ses stars d'un club à l'autre pour son plus grand bénéfice. Ainsi, Falcao, que tout le monde attendait dans un grand club participant à la Ligue des Champions minimum, va atterrir sur le rocher monégasque, à la surprise générale, pour 65 millions d'euros quand même. Mais pas pour longtemps, puisqu'il ne restera même pas un an puisqu'il était blessé. Il vient de rejoindre Manchester United sous la forme d'un prêt, un petit prêt de 10 millions d'euros, avec option d'achat de 55 millions. Pourquoi a-t-il été à Monaco, à part pour faire tourner la boutique que je ne vois pas très bien. Allez comprendre, pris dans la tourmente d'une ingénierie financière de plus en plus complexe, le joueur, lui, n'est pas que malheureux. Il va quand même gagner par semaine 400 000 euros, en gros. Mais pour les choix de carrière, il repassera. Lui qui rêvait du Real de Madrid, il se contentera donc d'un prêt de Monaco à United. Et United ne dispute aucune compétition européenne cette année, tandis que Monaco est engagé en Ligue des Champions. C'est à n'y rien comprendre.
cabeza, tallada en la sombra y la arena, constelación de colores que llevan sus parejitas, dejando así la silueta, tallada en la sombra y la arena, baila la suave minera,
con el sabor de tu raza,
ay llévame bien que este ritmo,
porque navega tu barca.
Alors pour illustrer cette chronique de la Babale Carrée qui nous a emmenés dans des paradis fiscaux, et il ne faut pas oublier quand même que tout a démarré en Colombie, et donc on a écouté de la musique colombienne, dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'il y a une histoire. La cumbia del pescador. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'était un poisson, ce Falcao, qui a été donc pris dans les filets, il ne faut pas dire des mafias, on n'a pas droit, on va dire, mais enfin, de sociétés un peu douteuses. Alors, comme il n'y a pas d'invité, j'en ai profité pour faire un petit retour sur quelques événements récents qui ont quand même secoué notre fierté. On va faire cocorico un peu. Alors on va parler d'un certain nombre de sports. Même nos footeux se sont correctement comportés au Brésil, avec un quart de finale perdu 1-0 contre le futur vainqueur de l'épreuve. C'est pour vous dire, même eux. Mais on va parler d'autres sports. Basket, tennis, volley. Alors si vous voulez bien, on va commencer par la petite balle jaune qui va nous proposer cette année, en fin d'année, une finale de Coupe Davis fantastique et plus qu'excitante. Les Français sont arrivés en finale. Vous savez, c'est la génération qu'on disait qu'ils iraient forcément un jour en finale et qu'ils la gagneraient, cette Coupe Davis. Simplement, pour le moment, ils ne l'ont pas encore gagnée. Ils ont bien été en finale une fois, mais ils ont été battus. Alors là, c'est la finale de rêve qui va se dérouler donc le 21 au 23 novembre de cette année à Lille, sur le stade de foot, où on va recouvrir le stade de foot et on va mettre, alors quel terrain ? Probablement de la terre battue, je suppose, puisque pour recevoir Federer et Varvitka, il vaut mieux quand même les mettre un peu au ralenti, si c'est possible, un tout petit peu ralenti. Et puis nous, avec notre régional de l'étape qui s'est fantastiquement comporté en demi-finale, Gasquet, toujours très solide, Tsonga, fidèle au poste, qui a toujours été présent dans les Coupes Davis. Et puis, on a notre artiste à nous, quand même. Chapeau bas, notre mon fils à nous tous, qui lui est capable de tout, du pire et du meilleur. On lui souhaite le meilleur, bien entendu, et en tout cas, ça va être un événement considérable. J'en profite aussi pour vous dire que ce sport, le tennis, donc, qui est un sport individuel, je l'ai classé dans les sports collectifs. Puisque, pour une fois, il s'agit de coupe. Il s'agit de Coupe Davis, donc c'est l'équipe de France qui rencontre l'équipe de Suisse. Ce n'est absolument pas, Gasquet qui va rencontrer Federer. C'est la Suisse contre la France. D'ailleurs, quand on annonce les points, on dit Suisse 15, France 0, par exemple. Hein, et ainsi de suite. On ne donne jamais le nom du joueur. Je trouve très très bien cette formule de Coupe Davis, parce que ça prouve que ce sport peut être aussi un sport collectif. Alors, maintenant, j'aimerais en deux mots dire, pour moi, celui qui est le véritable artisan de ce succès, eh ben, c'est le coach, Arnaud Clément. Arnaud Clément, il a 36 ans, c'est un joueur qui, il n'y a pas longtemps encore, on entendait beaucoup parler de lui. Il était d'ailleurs joueur de Coupe Davis, il l'a été en double notamment. Mais je trouve qu'il a vraiment réussi à préparer ça. Il a réussi à fédérer, si j'ose dire, puisqu'on rencontre les Suisses, il a réussi à fédérer l'équipe de France autour d'un projet. Et il a surtout réussi à les faire jouer ensemble au même moment. Parce qu'on n'avait toujours pas de problème. Il y avait Nsonga, mais il n'y avait pas le mon fils. Ah, il y avait Gasquet. Ah, mais Gasquet, non, il ne pouvait pas venir. Il était blessé. Voilà. Et il a réussi à les convaincre que là, il y avait une opportunité et que c'était peut-être l'une des dernières pour eux, ces joueurs. S'ils voulaient rentrer dans l'histoire, il faut qu'ils gagnent cette Coupe Davis. Et s'ils veulent rentrer dans l'histoire, il faut qu'ils soient tous tendus vers cet objectif en laissant un petit peu côté le côté individuel de ce sport. Alors, de retour pour parler donc des bonnes surprises. Les très bonnes surprises de ce début de saison là pour notre émission, mais surtout pour nos sportifs, nos basketteurs. Nos basketteurs, ils reviennent de la Coupe du Monde avec, s'il vous plaît, une médaille de bronze autour du cou. Alors, il y en a qui ont fait la fine bouche, mais bien sûr, ils auraient pu aller en finale. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Puisqu'ils ont été battus par la Serbie en demi-finale après une remontée fantastique, il s'en est fallu vraiment pas grand-chose. Je pense que sur cette demi-finale, ils étaient fatigués, les Français. Hein. Ils avaient tellement donné d'énergie dans leur quart de finale fantastique où, chez eux, pour la première fois, ils battent l'Espagne. Parce qu'ils ont déjà battu l'Espagne au championnat d'Europe, par exemple en demi-finale, où les Français sont devenus champions d'Europe. Mais c'est la première fois que sur le sol ibère à Madrid, eh bien, l'équipe de France bat cette équipe d'Espagne que tout le monde donnait favorite. On pensait même que l'équipe d'Espagne pourrait faire de l'ombre aux États-Unis d'Amérique. Eh bien non, en quart de finale, ils sont tombés sur un sacré os. Un sacré os qui, là aussi, est drivé, je dirais, coaché par quelqu'un d'extraordinaire, c'est Vincent Collet. Vincent Collet, autant qu'Arnaud Clément, est le responsable, me semble-t-il, de ce fantastique résultat, puisque faut pas oublier quand même que plusieurs stars de notre basket n'étaient pas présentes aux championnats du monde, et pas des moindres. Notre numéro 1, que tout le monde connaît, Tony Parker, champion NBA pour la quatrième fois avec les Spurs. Et puis on n'avait pas non plus Yannick Noah, élu meilleur défenseur, de la NBA l'an dernier, meilleur défenseur des Chicago Bulls. Donc on peut rêver, parce qu'on peut d'autant plus rêver que le championnat d'Europe, il va se dérouler à Montpellier. À Montpellier, le premier tour avec l'équipe de France. Et Vincent Collet ne désespère pas de faire ce qu'il appelle sa Dream Team. Un peu comme le tennis avec la Dream Team pour aller jouer la Coupe Davis. Il espère qu'il y aura tout le monde. C'est-à-dire, il y aura ceux qui ont participé à cette fantastique aventure, les Thomas Hortel et Nicolas Batum, bien sûr, mais aussi ceux qui étaient moins connus avant de commencer, comme Rudy Gobert. Hein. Et puis, il y aura toujours le vieux capitaine, peut-être sa dernière campagne, Boris Diaw. Et puis, Tony Parker est probablement, il essaye de convaincre Yannick Noah. Alors là, si on avait un 5 majeur de ce niveau-là, je crois que le champion d'Europe Et les autres équipes ont du souci à se faire, mais enfin, bon, attention à l'Espagne, qui va être extrêmement revancharde, hein, parce qu'ils ne l'ont pas digéré, hein, je vous signale, leur défaite à Madrid. J'en profite pour vous dire que ces jours-ci, à l'Arena, c'est-à-dire aujourd'hui samedi et demain, eh ben, vous avez Tony Parker. Tony Parker est là, à l'Arena, pour ce qu'on appelle l'Apart City Cup. Alors, c'est la première fois qu'on voit des basketteurs de très très haut niveau à Montpellier. Profitez-en. À l'Arena, alors, il y aura quand même comme équipe, hein, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, hein, puisqu'il y aura le Barça qui sera là, le Barcelone. Et puis, je crois aussi qu'il y a l'Étoile Rouge de Belgrade, donc parmi les deux grands champions d'Europe. Hein. Et puis, pour les Français, on aura l'ASVEL, donc Villeurbanne. Et on aura aussi, je crois, Pau Orthez et Paris Levallois. Donc, il y aura du monde. Alors, venez les voir si vous voulez voir les basketteurs pour vous donner une idée de ce que sera les championnats d'Europe en 2015. Retour dans cette émission 30 minutes chrono, que vous avez compris qui était un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas d'invité, mais on en profite pour revenir sur les exploits de nos sports co. Alors, il y en a encore un autre immense exploit, et je pèse mes mots, ce sont nos volleyeurs. Nos volleyeurs qui sont arrivés au championnat du monde en disant « bon, c'est la petite équipe de France qui vient là, ils sont pas mauvais, ça fait une bonne préparation », enfin, personne ne les voyait aller très loin. Surtout qu'ils sont tombés dans le premier groupe, sur un groupe extrêmement compliqué, avec l'Italie, les États-Unis d'Amérique et j'en passe. Donc vraiment, on se dit « bon, ils vont nous montrer qu'ils sont pas mauvais, mais c'est tout ». Et puis, surprise générale, ils terminent premier de leur groupe. Et il passe dans le deuxième groupe. C'est très compliqué. Je ne vais pas vous expliquer, c'est trop compliqué. Le mec a réfléchi aux poules du championnat du monde de volleyball. J'aurais bien le connaître parce que, à mon avis, c'est peut-être un ancien fonctionnaire. Parce que c'est compliqué ce qu'il fait. On se croirait à Bercy, vous savez, à Bercy, quand ils décident d'un nouvel impôt. C'est à peu près ça. C'est une complication, leur championnat. Mais heureusement, à la fin, ça se simplifie. On arrive, après bien des méandres, aux demi-finales. Eh bien, des demi-finales, figurez-vous, qui est la France. Alors là, chapeau. Chapeau, et là encore, une fois, chapeau à un coach. Vous voyez, dans ces trois sports, je crois vraiment que les trois coachs ont eu un rôle, mais absolument déterminant. Alors, le sélectionneur des Bleus, lui, il s'appelle Tilly. Il a été un grand champion aussi, Laurent Tilly. Et on dirait d'ailleurs, que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu nos volleyeurs, mais on a l'impression que le coach, c'est lui qui joue. Parce que il fait partie de ces gens qui sont tellement passionnés que quand il y a une réception à faire, il tend les bras, lui. Il est en costume cravate sur le bord de la route, mais il tend les bras. Ensuite, quand il y a un smash, on a l'impression que c'est lui qui envoie le ballon de l'autre côté. Mais c'est un personnage fantastique parce qu'il a réussi donc à faire un exploit. Alors, ces demi-finales, on va faire un France-Brésil. Un France-Brésil en volée, mais c'est fantastique. C'est le Brésilien, c'est les champions du monde, champions olympiques. C'est la grande nation, comme au foot. Le volée, c'est comme au foot pour les Brésiliens. Ce sont les champions de parmi les meilleures nations. Et puis de l'autre côté, on aura un Pologne-Allemagne non plus qui ne doit pas être mal. Parce que la Pologne, ils sont passionnés par le volée. Quand l'équipe de France a joué dans le deuxième tour, elle a été ovationnée par les spectateurs polonais, et ils étaient 15 000 pour aller voir du volleyball. Et ce n'était pas l'équipe de Pologne. Donc, ce sont vraiment des passionnés. Je pense que c'est une grande chance pour le volley d'avoir cette vitrine dans un pays qui adore ce sport. Alors, écoutez, France-Brésil, à l'heure où je vous parle, vous connaîtrez le résultat. Et puis, Pologne-Allemagne, on verra bien. Entre parenthèses, les Français ont massacré, si j'ose dire, l'équipe d'Allemagne, 3-0, juste avant. C'est incroyable. Ils ont fait un parcours extraordinaire. Alors, s'ils pouvaient nous faire le miracle d'arriver en finale, alors là, chapeau vraiment bas. Et chapeau bas surtout donc à Monsieur Tilly, et qui dit « Je me sens comme dans la forêt amazonienne. Je risque de me faire attaquer par des tigres, des serpents et des boas, mais j'essaye de survivre. » Et ben voilà, ce 30 minutes chrono un peu particulier est terminé. Ben j'espère que vous avez goûté à la chronique sur Falcao et puis à toutes ces bonnes nouvelles de nos sportcos. Allez, on va être un peu chauvin. Allez les bleus, allez les bleus. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.